Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'écouter Radio Okapi. Ce numéro du magazine Étoile reçoit M. Laurent Kassindi. Il est l'auteur du livre « Sévérité qui nous monte ». Publié en 2017, ce livre a récemment été réédité à Goma par la maison d'édition Mlimani. C'est lors de son séjour à Goma en décembre dernier que Laurent Kassindi a échangé avec les jeunes sur ces vérités qui nous montent et les mensonges qui sont devenus des vérités populaires. Dans un instant, il va partager avec nous les contenus de son livre qui reste disponible dans les librairies des grandes villes du pays.
Radio Okapi. À Goma, Okapi. Sur 95.5 FM.
Okapi. Monsieur Laurent Kassindi, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter.
Oui, je m'appelle Laurent Kassindi. Je suis marié. J'ai étudié à Bukavu dans des écoles catholiques, évidemment. Je crois que j'ai fait tout mon parcours dans les écoles catholiques, donc l'école qu'on appelle Saint-François, et puis le collège Alpha Giri, et puis l'université catholique de Bukavu. Et même actuellement, j'ai fait encore un master en sciences politiques à l'université catholique de Louvain, en Belgique. J'ai passé mes 40 ans au pays, ici, au Congo. Et actuellement, je travaille dans une ONG internationale. Je travaille dans le domaine de la transformation des conflits, la construction de la paix.
Aujourd'hui, vous êtes âgé de 43 ans. Dans votre livre, vous commencez par votre expérience de la guerre.
Absolument. Donc, dans mon livre, je commence par l'expérience de la guerre parce que je crois que s'il n'y avait pas eu cette guerre, je n'aurais pas écrit ce livre. Quelqu'un a dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je pense que quand on a quelque chose à dire, assez généralement, ça part aussi d'une expérience parfois négative. La mienne, c'est celle-là. La mienne, c'est que je pense toujours aujourd'hui qu'aucun enfant dans l'adolescence il devrait voir ce que nous on avait vu à ce moment-là. D'abord voir son père qui a peur, rien que ça. De voir sa maman qui tremble, voir que l'enfant va se cacher sous la table et les parents aussi. Moi, je trouve ça très troublant, déjà pour un enfant. Et donc, nous avons vécu ça.
Et donc là, c'était en 1996.
Et là, c'est en 1996. Donc en 1996, moi j'ai 4 sœurs, une grande sœur et 3 petites sœurs. Donc quand même, la plus jeune était encore beaucoup plus petite, elle avait 10 ans peut-être. Et je vois que nos parents disent, bon voilà, on a tué l'archevêque, nous devons fuir. Fuir. Il y a 2 déchirements. Le premier déchirement, c'est que vous ne savez pas où vous allez. Et le deuxième déchirement, c'est que vous quittez l'endroit qui représente la sécurité et les repères pour vous. Quittez notre maison, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Nous sommes partis, nous avons marché pendant 2 semaines. Et après, nous sommes restés dans un village, mais quand même le village de nos parents, pendant 2 mois. Quand je suis rentré en ville, à Bukavu, pour reprendre les études, je pense que j'étais quelqu'un de différent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Mais je rentre dans quoi ? Parce que je ne pouvais pas m'imaginer, ça signifie quoi de vivre sous une rébellion? Ça signifie quoi de vivre sous un territoire occupé? Et je commençais à ce moment-là à croire que je n'avais plus d'avenir. Mais après, voilà, tout ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Le Congo a eu la transition, les accords de Sand City, et puis on a eu des élections en 2006. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler. Donc voilà ce que je suis. Et depuis tout le temps, en grandissant, je crois que j'ai toujours été guidé par la question, qu'est-ce que nous on peut faire pour que les jeunes, nos enfants, les plus jeunes, ne vivent pas ce que nous avons connu. Mes questionnements ont commencé par là.
Et en 2012, c'est comme si vous vous retrouviez encore en 1996.
Absolument. Alors, en 2012, je travaille déjà. Je travaille ici à Goma, à Bukavu et à Uvira. Et puis, on apprend qu'il y a encore une rébellion, évidemment, qui commence quelque part dans le nord du Nord Kivu et qui avance. Il s'appelle le M23. On connaissait déjà le CNDP. Et bien, on nous dit que cette rébellion du M23, un jour, un soir d'ailleurs, je rentre à la maison et dis non, cette rébellion a pris la ville de Goma. Parce qu'on entendait dire un peu, les journaux disaient, oui, ils sont en train d'avancer, ils menacent maintenant de prendre Goma, ils ont pris des territoires. Comme en 96, on se disait, non, l'armée va les bloquer, notre armée ne va pas les laisser avancer. En 96, on se disait, l'armée de Mobutu est puissante, avec les bérets verts et les bérets rouges. Là, dans ce qu'on se disait, ouais, il y a tout le monde, il y a la MONUSCO, il y a les Nations Unies. Après, ils ont pris Goma. Nous étions tellement frustrés. Moi, j'ai eu tellement mal. Parce que je crois, en adulte, je commençais à me dire, est-ce que ce n'est pas un peu de notre faute? Est-ce que ce n'est pas un peu de notre faute? Et c'est à ce moment-là que le discours qui est resté le mien jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à pointer les autres. Dans le malheur du Congo, je ne suis jamais de ceux qui s'assoient et commencent à dire c'est la faute d'un tel. Je considère que c'est toujours de notre faute. Même quand c'est l'autre, c'est toujours de notre faute. L'exemple que je donne, je dis, Est-ce que vous pensez que tout le monde aime les Américains? Non. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de grandes de puissances partout au monde qui veulent attaquer l'Amérique? Il y en a. Mais c'est l'Amérique qui se dote des moyens de se défendre. Est-ce que vous pensez que tout le monde aime la France? Non. Mais c'est la France qui s'organise pour que toute hostilité externe ne puisse pas facilement opérer sur son territoire. J'ai toujours pensé que c'est de notre faute. Dans mon livre, déjà à l'époque là, je commençais à réfléchir que peut-être on doit dire au plus jeune ce qu'on ne nous a pas dit à nous. Et déjà à l'époque, je commençais à me dire, on nous a trompés. Ceux qui nous ont éduqués nous ont trompés.
Et c'est de là que vient le titre de votre livre, « Ces vérités qui nous mentent ».
Je commence à dire d'abord ce qu'on nous a menti. À ce moment-là, je suis seul. Hein. Je peux dire la vérité. La partie la plus intéressante de ce livre, moi je trouve, c'est l'avant-propos où j'écris « à cœur ouvert ». Parce que c'est ce que j'ai écrit le soir où j'étais frustré. Et je commence à me dire, on nous a menti sur quoi? Ah, j'ai dit, on nous a menti sur la richesse. On nous a dit que notre pays est riche. Moi je n'ai pas vu. Honnêtement, j'ai traversé beaucoup de provinces du Congo, presque toutes. Je n'ai pas vu la richesse. Je ne la vois pas. Elle est où, la richesse? La richesse, elle est dans les livres, elle est dans les déclarations des politiciens à la radio, à la télévision. Mais on ne la voit pas. Le Congolais moyen est pauvre. Nous sommes parmi les peuples les plus pauvres du monde. Mais à l'école, on nous dit que nous sommes un scandale géologique. Les dirigeants disent que le monde entier vient ici parce qu'ils viennent prendre notre richesse. Alors je commençais à me dire, ça, on nous a menti. Et je commençais à dire, où est le mensonge? Parce que je ne vois pas la richesse sur moi ou autour de moi, mais on me dit qu'elle existe quelque part. Et après, dans ma réflexion, je me suis dit, ah, il manque des ingrédients au milieu. Et les choses au milieu qui peuvent faire qu'un potentiel de richesse devienne une richesse réelle, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est la discipline. C'est la manière dont, en tant que peuple, on s'organise. On s'organise à deux et à trois. Le sérieux qu'on met dans tout ce que nous faisons, les choix que nous faisons. Nous, à l'opposé, on est trop divisés, on prend tout à la légère. Moi, je l'ai dit, on prend tout à la légère. C'est comme une culture presque de médiocrité. Je suis désolé de le dire. On ne veut pas mettre la part de travail nécessaire pour vraiment que notre potentiel de richesse devienne une richesse réelle.
C'est la première vérité.
Ça, c'est la première vérité à laquelle j'ai pensé ce jour-là. J'ai dit, parce qu'on nous attaquerait pas si facilement si on était quand même riche. Hein. Et je commençais à me dire quand même, parce qu'un pays riche, il a une armée riche aussi, une armée bien équipée, bien organisée. Je me disais, mais un pays riche, il a des dirigeants, n'est-ce pas, qui sont respectés dans le monde. Nos dirigeants peuvent aller là-bas et taper du poing sur la table. C'est ce que je vois les pays riches faire. Les pays riches posent des conditions. Nos pays nous supplient, nos pays nous tendent la main. Donc je m'étais dit, donc on nous a menti sur la richesse, il faut que nous, on se dise la vérité sur la richesse.
Et après cette première vérité sur les scandales géologiques de la RDC, vous avez parlé de la richesse individuelle maintenant.
Oui, alors je me dis aussi le deuxième point, mais pourquoi aussi notre richesse potentielle n'est pas une richesse réelle? Parce que certains Congolais volent et ils sont plus riches que le Congo. J'ai écrit dans le livre que certains Congolais sont fiers d'être plus riches que leur propre pays, d'avoir un hôtel qui est plus imposant que la mairie, qui est plus imposant que le tribunal. Je donne souvent l'exemple de la ville de Goma. Moi, je veux le dire ici et j'assume, je trouve que la ville de Goma est le reflet de ce que le Congo est plus pauvre que les Congolais. C'est que les bâtiments publics à Goma sont toujours plus pauvres que les bâtiments privés. C'est que les tribunaux, la mairie vont toujours être beaucoup plus, on va dire, plus petits, plus insignifiants qu'un hôtel, qu'un bar, qu'un supermarché. Non, si vous visitez la ville de Washington, c'est le contraire. L'État, qui est riche, quand lui, il est riche quelque chose, ça paraît toujours plus riche que ce qu'ont les habitants. Alors moi, je commençais à me dire alors pourquoi? C'est parce que les Congolais ont pensé, et c'est ce qu'on nous a dit, que amasser de l'argent, amasser de la fortune, c'est ça la richesse. Mais si tu t'enrichis au détriment de l'ensemble de ton quartier, si tu t'enrichis au détriment de l'ensemble de ta ville, si tu t'enrichis au détriment de l'ensemble de la population congolaise, est-ce que c'est de la réussite? Tu amasses pour toi et tu nourris tes enfants avec des choses volées, tu les nourris de vol, tu les nourris d'antivaleurs et tu veux passer devant nous et qu'on te respecte. Quand je vivais à Kinshasa, je disais aux gens, les gens ici qui passent dans les jeeps et qui vous disaient grand prêtre, pourquoi vous les appelez grand prêtre? C'est parce qu'il a une jeep. Si tu ne sais pas d'où provient la jeep, peut-être c'est un petit sorcier, c'est pas un grand prêtre. Parce que sur l'apparence, vous dites, lui il a réussi, il mérite le respect. Mais il faut donner le respect à quelqu'un pour la manière dont il a acquis les choses. Pas pour ce que tu vois, parce que beaucoup des richesses sont bâties sur nos forces communes.
À travers cette vérité qui nous ment, donc les sens qu'on donne à la richesse en RDC, vous voudriez nous demander de remettre en cause toute cette façon de voir la réussite dans nos sociétés.
Absolument. Moi, je pense que, prenons un officier d'armée. Si on a été 25 ans officier de l'armée, qu'est-ce qui représente la réussite pour un officier de l'armée? C'est les batailles gagnées. Ce n'est pas le fait que l'officier de l'armée a un hôtel ou que l'officier de l'armée a un bar. Si on prend un enseignant, qu'est-ce qui représente la réussite pour un enseignant? C'est les enfants qu'il a éduqués, ceux qui sont devenus ingénieurs, astronautes, pilotes. il le voit en cours de route, il dit « j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma mission en tant que formateur ». Parce qu'il regarde le fruit de ma formation. Si on est un religieux, je parle même des religieux, qu'est-ce qui représente la réussite pour un religieux? C'est les âmes que tu as sauvées. Mais pour toutes ces catégories, qu'est-ce qu'on observe vraiment? Je vais parler des humanitaires. Quelle est la réussite d'un humanitaire? Ce sont les déplacés qui mangent bien. Ce sont les réfugiés qu'on assiste. Ce sont les maladies auxquelles on essaie de répondre. Mais quand on regarde toutes ces catégories des personnes et qu'on regarde à 50, 60 ans, qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour se présenter devant le Congolais qu'ils ont réussi? Il va dire, j'ai construit une maison. J'ai acheté 3 voitures. Tout le monde. Moi, j'étais très surpris de voir que même les religieux, aujourd'hui, qu'ils soient pasteurs ou prêtres, ils commencent à construire des hôtels pour en faire quoi? Ça, c'est pas un modèle de réussite pour la mission qu'il a, pour la fonction qu'il a assumée. Mais tous, ils se rejoignent sur le fait que, en tant que Congolais qui a réussi, je dois présenter un bilan matériel. Les gens qui vont au Parlement comme députés, ça devait être les lois qu'ils font passer, qui est leur indicateur de réussite. Mais tous, non. Quand ils ont l'occasion, ils essaient d'avoir une voiture, une Jeep. Il n'essaie pas de dire, regarde, moi, je me suis battu pour que tes lois passent pour l'intérêt des gens qui m'ont élu.
Il y a une troisième vérité dans les livres.
La troisième vérité de mon livre, c'est l'hospitalité. À l'époque, déjà, j'entendais les politiciens dire le Congolais est d'une hospitalité légendaire et que les agressions externes ne sont rendues possibles que parce qu'il y a des étrangers qui abusent de l'hospitalité légendaire du peuple congolais. Le gouvernement d'un pays qui a un peuple hospitalier doit sécuriser les frontières de ce pays. C'est le dirigeant, le père d'une famille, qui doit assurer qu'il y a le verrou à la porte pour que le voleur n'entre pas. Et je donne toujours l'image d'ailleurs d'une famille. Si le père dit « j'ai éduqué mes enfants à être hospitaliers, mais alors on va rester la porte ouverte, comme ça le petit voleur il vient aussi, il nous vole », ça c'est pas de l'hospitalité, c'est de la naïveté. Et je dis tous les états du monde ont des gens qui leur en veulent et qui voudraient les attaquer. Il y a toujours quelqu'un qui ne vous aime pas. Mais les Belges, les Français, les Américains, les Allemands et tout le monde, ils essaient de mettre aux portes de leur pays un système de filtrage qui permet aux bons étrangers de venir et de bénéficier de l'hospitalité, aux mauvais étrangers d'être bloqués.
Alors, nous allons prendre une chanson, c'est à vous de la choisir.
Je vais prendre des balais à Congo des Papa Wemba.
Pourquoi?
Il dit que le fleuve Congo n'est pas une clôture, mais est un chemin. Et Baléa Congo, Ezali Lopangote, Ezali Senzela. Je trouve que ce passage-là particulièrement me parle parce que au tout début, dans notre histoire, le Congo n'était que le fleuve, en fait. Ceux qui sont venus créer l'État congolais, ils ont dit ils vont suivre le bassin du fleuve Congo. Notre fleuve, c'est un peu vraiment comme une veine qui connecte les différentes communautés de notre peuple. Le fleuve Congo nous devrait nous rappeler à chaque instant que nous, en tant que Congolais, nous sommes véritablement unis dans un même destin, peu importe de quelle région nous venons. Notre fleuve nous rappelle qu'on ne doit pas ériger des murs et entre nous, les alopangotés, mais nous rappelle que nous devons plutôt ériger des sentiers entre nous, nous connecter, et essayer de prendre ensemble la main le destin de notre pays.
Ebale ya Congo, ezali lopangota, kasi ezali senzela. Yahweh, benisa Congo, Yahweh, batela mitongo. Congo, na lubumba si pena pointe noire et ton abomengo na bato a mayele et ningie tumbate oe tumba ebenga na katimia ebomaka bombeko eteki ekolo oina libumo bani pe okabwami yawe yawe benisa kongwe yawe yawe batela bana kongo yawe yawe benisa kongwe yawe yawe batela ni
Nous sommes de retour dans ce studio, toujours avec vous, Monsieur Laurent Kassindi, pour parler de vous, mais aussi de votre livre, « Ces vérités qui nous montrent ». On vient de parler, dans la première partie de cette émission étoile, des trois vérités qui nous montrent. Le Congo est un scandale géologique, gagner l'argent, c'est réussir sa vie, et aussi l'hospitalité des Congolais. Dans les livres, vous parlez également des mensonges qui sont devenus des vérités populaires.
Oui, je parle des trois mensonges qui, à mon avis, sont devenus des vérités populaires, c'est-à-dire des choses qui sont, on va dire, scientifiquement très fausses, en fait. Mais on te les répète tellement et tu l'entends tellement que tu commences à dire « peut-être c'est vrai ». Et le premier de ces mensonges, il est très populaire à Kinshasa, « Yonde okobongisambo koyo ». Est-ce que c'est toi qui vas changer le pays? Est-ce que c'est toi qui vas sauver le Congo? C'est ce qu'on te répond pour te dire de ne pas être la petite voix qui appelle au bon sens, de ne pas être la petite voix qui appelle à l'honnêteté, de ne pas être la petite voix qui dit aux gens, on ne peut pas jeter la bouteille. On vient de boire un jus sur la route, sur le boulevard, on jette la bouteille vide sur la rue. J'ai vu chaque fois cela. Et chaque fois, on demande, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ah papa, tiganga, yondo mungsamboko. Est-ce que c'est toi qui vas changer le pays tout seul? Une fois, on entre dans un bus, le bus, il est surchargé. On dit à ce monsieur, mais tu ne peux pas nous transporter comme ça, comme des sardines. Il dit, papa, so lingite, salamokilinayo. Donc, fais ton propre monde, parce que ce n'est pas toi qui vas changer le pays. Alors, en force de l'entendre, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde fait la même chose. Donc, quand il y a des embouteillages, tout le monde, en fait, on se coince, on avance là-bas, on ne respecte pas le code de la route. Le policier de roulage, il laisse tomber. Moi, j'ai vu ça même à Goma hier. Et donc, c'est vraiment un désordre organisé parce que tout le monde abandonne. Le représentant de l'État laisse tomber, la population laisse tomber. Il n'y a personne pour conseiller l'autre, comme on dit en swahili. Et donc, moi, je dis ça, c'est un mensonge, en fait. Parce que si on regarde bien l'histoire du monde, je cite un auteur dans ce livre qui dit qu'on ne vous fasse jamais croire qu'un petit groupe de personnes déterminées ne peut pas changer le monde. Tous les héros que nous connaissons, ça a toujours été une personne entourée de deux ou trois autres personnes et qui ont dit, ok, nous, on va se lever, on va se dresser, on va essayer d'être différents. Après, nous allons essayer de pousser l'ensemble à être différents. On va essayer de naviguer à contre-courant. Cela demande du courage, de l'audace, même de la folie. Et imagine-toi, c'est là où je dis que c'est des mensonges qui n'ont pas des vérités. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se dresser contre la corruption au Congo, mais tu parais fou. J'ai une amie qui gère une école primaire qui m'a dit qu'elle a vu des parents venir inscrire leurs enfants à l'école avec des faux bulletins. Et si un parent dont l'enfant a échoué deux fois doit prendre la décision que mon enfant a échoué, il ne peut pas avancer, je vais quand même lui demander de continuer à reprendre, bien sûr qu'il paraît fou. Aux yeux de tout le monde, il dit mais fais comme tous les autres, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand je commençais à travailler avec les ONG et que j'avais accès à quelques budgets, tout le monde m'a dit mais tu dois construire une maison pour tes parents. Mais je dis mais j'ai pas cet argent. Il dit mais tu as la signature. Et si quelqu'un aujourd'hui a accès à un budget, où qu'il soit, que ce soit une association locale, un club de sport, un orchestre, une ONG, l'entreprise publique, et qu'il ne peut pas prendre cet argent pour aller faire profiter sa famille, bien sûr qu'il paraît fou. Et tout le monde va lui dire, mais est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Est-ce que tu penses que c'est toi qui vas changer le Congo? Et moi, c'est là que j'ai dit dans le livre, en fait, on t'aimant. Parce qu'une personne déterminée peut commencer à donner le bon exemple, et il va faire effet boule de neige.
À part ces mensonges, il y a aussi un autre.
Il y a un autre mensonge, c'est le chef qui a dit. Alors, je trouve que dans un système organisé, c'est tout à fait bien qu'on écoute le chef. Mais je trouvais que, déjà, ça, j'ai vu quand je travaillais dans les associations locales, qu'au Congo, on préférait obéir, les yeux fermés parfois, en disant le chef a dit. Et parfois, il n'a même pas dit, mais on te dit juste que le chef a dit. Parce que le chef représente en fait cette entité qui doit avoir toujours raison et nous, on doit obéir sans questionner. Moi, je trouvais que c'est faux, en fait. Dans un système organisé, toute personne doit être capable de contribuer au débat. Toute personne qui est dans le système doit être capable de s'approprier ce qui est en train d'être décidé. Et qu'on ne peut pas juste aveuglément dire, voilà, c'est ça qu'on nous a dit de faire, on va le faire comme ça, on va suivre à l'aveuglette, ou même utiliser cela comme une justification en fait, parfois mensongère. Hein. C'est ça que Kinshasa nous demande de faire. Hein.
Alors l'autre mensonge qu'on retrouve dans les livres, est celui qui veut qu'on puisse se taire pour vivre tranquillement, pour ne pas s'attirer d'ennui.
Oui, absolument. Et un jour, c'était encore ici à Goma, il y a longtemps, hein, je pense qu'il y a 12 ans, 14 ans, je rencontrais une amie européenne qui avait travaillé au Congo pendant quelques années. Et puis je lui avais dit, qu'est-ce que tu aimes de Congolais, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors bien, elle m'a dit, les Congolais sont bien, ils sont joyeux, ils sont faciles à vivre en fait. Après j'ai dit, mais qu'est-ce que tu pourrais nous reprocher un peu? Et elle m'a dit, moi je trouve qu'il y a des choses au Congo qui passent, mais dans tout autre pays au monde, ça aurait créé un soulèvement populaire. Alors, je dis, ah bon? Explique-moi. Et je dis, tu sais par exemple vos routes? À l'époque, hein, elle m'a dit, tu sais par exemple vos routes? À l'époque, pour faire Goma Sake, je me souviens bien, on faisait, je sais pas moi, 40 minutes ou une heure. Et franchement, on arrivait, on avait mal à la tête. Les amortisseurs du véhicule souffraient. Et tu sais qu'à beaucoup de pays au monde, les gens n'accepteraient pas ça. Je vois par exemple qu'au Congo, quand le policier de roulage, il crée le désordre sur la route, chacun s'accommode, on s'arrange et on passe son chemin. Ton voisin, il sort de la maison, il prend de l'eau sale de la cuisine, il jette sur l'avenue. Au Congo, tout le monde passe. Les gens passent leur chemin, disent, oh, laisse-le faire son affaire, moi je passe mon chemin. Apparemment, les Congolais, ils aiment bien l'idée de vivre tranquille, de laisser faire des choses, de dire, bon voilà, ça reste comme ça, que chacun vive sa vie. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi. Et je commençais à me dire, est-ce que notre seuil de tolérance n'est pas trop élevé? On tolère tout, on tolère vraiment tout. Le Congolais, c'est, il n'y a pas l'eau, ok, je vais prendre un bidon, je vais aller puiser. Il y a des autorités qui sont censées te donner de l'eau. C'est leur devoir. Et puis tu leur as pas demandé. Ils sont eux-mêmes présentés à dire, je vais m'occuper de ça. Moi, je rappelle toujours que si quelqu'un il dit, je suis ministre de la Santé et que nous avons des hôpitaux qui ne sont pas bien gérés, je dois demander au ministre pourquoi on a des hôpitaux, des charlatans qui sont en train d'injecter aux gens des choses ici et le ministre ne fait rien. Au Congo, non. On ne demandera pas ça au ministre. Au Congo, si vous avez un gouverneur de province qui est en train de détourner de l'argent, d'aller, je sais pas moi, qui a des permis miniers et tout ça, on va passer. On va se dire, on le laisse comme ça, bon voilà, c'est lui le chef et tout ça. Mais dans tout autre pays au monde, il y aura un soulèvement. Et moi, je dis dans les livres que si on continue comme ça, on est en fait complice de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. Et chacun à son niveau. Parce qu'il nous suffit à deux, à trois de dire ça, c'est pas acceptable. Et je ne parle pas de faire une marche. Je parle de commencer à être en désaccord avec ce que tu vois. Tu vois là-bas sur la route, tu vois ce que ton voisin fait, tu dis non, tu peux pas faire comme ça. Tu dis à ton voisin, tu peux pas faire comme ça. Parce que les grands changements au monde viennent avec le changement des normes sociales. Quand quelqu'un sait que le voisin qui passe, il va me le reprocher. Uriner sur la route. Si on veut décourager cela, ça ne demande pas une marche de protestation. Ça demande que la personne qui veut uriner sur la route se dise que la personne qui passe derrière moi va me dire, monsieur, vous ne pouvez pas uriner ici. Notre pays n'est pas une toilette publique.
Et donc, le livre, il est destiné à tout le monde?
Le livre est destiné à tout le monde. Je crois que quand je l'écrivais quand même, je me disais, je vais écrire pour les jeunes. J'essaie de développer un langage qui est très accessible pour les jeunes. Moi, je croyais que j'ai regardé mon auditoire entre 12 et 25 ans. J'ai juste émis comme une narration, comme un discours. Parce que je voulais que ce soit un message touchant. Un peu comme tu écoutes une prédication ou tu écoutes quelqu'un qui s'exprime, une analyse. Mon audience est là-bas. Mais j'ai vu beaucoup d'adultes aussi qui ont lu et qui ont dit « Ton livre nous a beaucoup parlé. » Je me suis senti moi-même révolté contre moi. Parce que quand je dis, par exemple, je vais peut-être illustrer, j'ai dit que, bon, on dit le Congo a beaucoup d'ennemis et que beaucoup de gens nous en veulent. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui est arrivé à faire du mal au Congo sans la complicité des Congolais, d'autres Congolais. En fait, le pays ici n'est pas victime des étrangers, il est victime de la trahison de ses enfants.
Et si vous devriez écrire ce livre aujourd'hui, parce qu'il est sorti en 2017, quelles seraient les nouvelles vérités qui nous mentent en ajoutant aux précédentes parce qu'elles sont toujours actuelles?
Ce que j'ajouterais peut-être aujourd'hui, des questions que je commence à me poser vraiment, c'est les élections. Est-ce que les élections sont véritablement le mécanisme par lequel un pays se dote des dirigeants qui vont vraiment l'aider à répondre à ses besoins et l'aider à aller de l'avant? Moi, je commence à trouver que les élections, c'est peut-être une vérité qui nous ment. Parce qu'on peut dépenser de l'argent, et parfois j'entends des chiffres, tout le pays va se mobiliser pendant 3 ans de préparatifs, et puis on va dépenser presque 1 milliard de dollars. Après, on ne sait pas si la personne déjà qui va ressortir sur la liste comme élue, c'est la personne qu'on a élue. Que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence, on ne le sait pas. Même quand on fait les élections des gouverneurs, personne ne peut vraiment démontrer que c'est la volonté populaire qui se reflète dans le gouverneur qu'on a. Parce que ce qui est même intéressant avec le choix de gouverneur, c'est que c'est un vote indirect. Donc le peuple est censé avoir élu des députés qui représentent sa volonté et des députés qui vont essayer d'élire un gouverneur qui représente ce que le peuple attend. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si quelqu'un peut me le prouver. Moi, je commence à en douter. Je ne pense pas que si on fait le tour des 26 provinces aujourd'hui, ces promesses sont vraiment dirigées par des gouverneurs qui représentent ce que le peuple aurait souhaité. Ça, c'est la première question. Et la même chose au Parlement. Je ne sais pas dans quel taux, je ne sais pas combien de Congolais pensent que les gens qui sont là-bas, les 500, représentent vraiment les 500 personnes qu'on voulait avoir là-bas. Première chose. La deuxième chose, c'est que même si on arrive à élire des personnes qui véritablement représentent nos choix, notre vote sur le plan numérique, est-ce que les personnes là, une fois en poste, servent le peuple? Est-ce que ces personnes là servent les désirs du peuple? Si les personnes arrivent là-bas, même en ayant la légitimité, ne servent pas ce que le peuple attend, mais les élections, c'est une perte d'argent et c'est une perte de temps pour tout le monde. Moi, je commence à le questionner. Dans ce sens-là, je commence à me dire, est-ce que les élections, ce n'est pas aussi une vérité qui nous ment un peu? Pas que les élections en elles-mêmes. Voilà pourquoi c'est une vérité. Les élections sont bonnes. Les élections, c'est vraiment une manière pour un peuple de se doter des dirigeants. Mais pour que les élections ne deviennent pas un mensonge, il faut qu'il y ait les deux conditionnalités qui soient respectées. Que, un, le résultat des élections reflète la volonté des électeurs, des personnes qui se sont déplacées de leur maison, qui ont accepté de griller sous le soleil ou sous la pluie, d'être mouillées, pour voter. Et deux, que la personne qui est élue se mette en tête que maintenant, je vais essayer de tout faire pour rencontrer les désirs des personnes qui m'ont envoyé ici. Quand les deux conditionnalités-là ne sont pas remplies, les élections sont une perte d'argent et une perte de temps. Et puis l'autre chose que je me dis, si je devais écrire encore aujourd'hui sur les vérités qui nous mentent, je commencerais à me demander, est-ce qu'un dirigeant qui a de la vision, qui a la volonté de servir, est-ce qu'il se suffit à lui-même? Je commence à penser que nous, en tant que peuple congolais, nous avons quand même cette tendance à créer nos propres dictateurs. C'est-à-dire que lorsqu'une personne accède à des hautes fonctions dans notre pays, ça commence d'abord par une célébration très étrange. Il y a toute la tribu qui organise une grande danse folklorique. Il y a des gens qui commencent à venir jeter la poudre. J'ai jamais vu que quand on envoyait un militaire au front, les gens ont dansé. On danse toujours pour les personnes qui accèdent à des fonctions où on peut distribuer. En échange, on peut distribuer, on peut donner des avantages aux gens, on peut donner de l'argent aux gens. Ces personnes-là qui dansent et qui chantent, ce sont des personnes en fait qui commencent déjà à se positionner par rapport au chef. Ce qui va suivre après ça, après ces danses, va être les éloges. C'est que quand même, nous en tant que peuple congolais, on a une tendance à flatter. Le djalelo, comme on l'appelle. Dès que quelqu'un accède aux fonctions, quelqu'un accède à un poste de responsabilité, peu importe les secteurs, tout le monde se sent vraiment la bouche du renard. Et tout le monde commence à le flatter, le chef est pas forcément, non, le chef a dit ça, c'est franchement derrière sa vision, c'est franchement parce que nous avons toute son inspiration. Il n'y a plus personne qui a la moindre idée dans toute la machine administrative, dans tout l'appareil politique. Tout devient, non, c'est sous impulsion, c'est parce que le chef a dit. Alors moi je me dis, quand on est un chef au Congo et qu'on est sensible à ce genre de choses, on est en train de se laisser pétrir par deux mains qui fabriquent un dictateur. Parce que on peut être de bonnes intentions, mais avec le temps, on commence véritablement à entrer dans les jeux. Et l'être humain, il est facilement influençable. L'autre élément que je trouve, c'est qu'on ne fait pas de reproches. Quand on est chef au Congo, personne ne peut rien te reprocher. Personne ne peut te dire que tu te trompes. Personne ne peut te dire que là, franchement, ce n'est pas la bonne décision. Ou même les gens qui te dirigent, comme je disais encore, c'est lié à ce que je disais avant, ils vont très rarement s'exprimer pour dire « on n'est pas d'accord, on va préférer laisser faire ». C'est qu'à un moment, les personnes qui dirigent au Congo réalisent qu'en fait, ah oui, je dirige les gens qui me laissent l'espace. C'est des gens qui, en fait, je peux me permettre des choses. Franchement, je peux me permettre des choses. Et chaque fois, ils testent et ils voient que, ah oui, la réaction ne vient pas. Et comme il n'y a pas de réaction négative, au Congo, nous fabriquons nos propres dictateurs. C'est que des personnes, moi je pense que même si on prenait le président d'un État occidental, on l'amenait au Congo, il arrive à l'aéroport, il voit tout le monde en train de danser, il voit que le Parlement s'est mobilisé pour venir l'accueillir. Il va commencer à se dire, ah oui, je ne suis pas un petit monsieur ici. Et progressivement, on va porter l'habit d'un dictateur.
Nous allons terminer, monsieur Laurent Kassindi, à vous voir avec vos lunettes. Vous réfléchissez beaucoup. Vos moments de détente, comment les passez-vous?
Je suis quelqu'un de très, très détendu. Il ne faut pas se laisser prendre au jeu. Je pense que je me pose beaucoup de questions. Et parfois, je me pose des questions sur tout, en fait. Vraiment des questions sur tout. Mais je suis quelqu'un de très détendu. Je joue au théâtre, beaucoup. Je joue à la guitare un peu, je joue au piano un peu. J'ai toujours fait partie des groupes, soit de musique, soit de chorale, encore aujourd'hui. Ma grande passion, moi, je pense que c'est le théâtre. J'ai toujours aimé les spectacles qui bougent, donc les jeux de scène, les spectacles de ballet, ça, je fais toujours. Et dès ces derniers temps, je commence à regarder beaucoup le football.
Alors, Monsieur Laurent Kassindi, je vous remercie d'avoir participé à cette émission Étoile sur Radio Okapi avec votre livre Sévérité qui nous monte. En un mot, vous pensez à un prochain ?
Pas encore, mais je pense que ça viendra par venir.
Merci.
Avec plaisir.